Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Au bord des corps.
Pour la réappropriation de ma parole, de mes luttes, contre les faux arguments antiféministes dangereux. Dans ce texte, j'ai essayé d'expliquer au maximum des choses qui ont été souvent condensées dans des concepts sociologiques. Je recours notamment à l'expression « oppression systémique ». Cela renvoie à l'ensemble des mécanismes qui structurent le système politique, socio-économique et social, sur la base de critères, singulier pluriel, instaurant la hiérarchisation, la domination directe ou indirecte, par des privilèges, un certain droit au confort, à la tranquillité, etc., de certains groupes de personnes sur d'autres groupes de personnes, qualifiés alors de minorités, vis-à-vis de ceux et ces mêmes critères, au nom duquel desquels elles sont, selon les cas, discriminées, exploitées, exclues, violentées, tuées. En termes d'exemples de systèmes d'oppression, on compte le sexisme, le racisme, le classisme, le validisme, etc. Je milite dans un collectif queer féministe, antiraciste, anticlassiste, antivalidiste, se positionnant depuis une lecture intersectionnelle, imbrications, consubstantielle des oppressions, et qui a organisé une manifestation de nuit le 8 mars dernier. Pour rappel, les manifestations de nuit féministes ont une symbolique historique particulièrement forte puisqu'elles représentent une réappropriation de l'espace public, pensée et monopolisée avant tout par et pour des mecs cis, blancs, bourgeois et valides. C'est pour ça que les minorités font des manifestations pour se donner de la force, pour reprendre un espace qu'on leur refuse ou qui est un lieu de menace constante à leur encontre. Marcher ensemble la nuit est d'autant plus fort symboliquement pour les minorités de genre, à qui la société, famille, autorité patriarcale en tout genre, recommande constamment d'éviter de circuler ou d'être particulièrement plus précautionneuses la nuit au nom de leur sécurité. Les manifestations de nuit ne sont généralement pas déclarées, parce que cette réappropriation de l'espace public est pensée comme venant d'abord de soi, légitime et nécessaire, refusant d'encore et encore demander une autorisation de revendiquer le respect de nos vies, nos libertés et notre dignité à des autorités patriarcales qui cherchent chaque jour à restreindre un peu plus les espaces d'expression, de circulation, de contestation. Or ce renversement des normes, ce rassemblement et cette reprise de la rue, clamée haut et fort, dérangent toujours. La symbolique est si forte qu'elle conduit fréquemment à des agressions extérieures sur les cortèges, à Bordeaux comme ailleurs en France et dans le monde entier, venant selon les cas de membres masculinistes, fascistes ou des forces policières. Les mouvements féministes tentent au fil des années de s'organiser pour prôner une certaine protection, vigilance et soin au sein du cortège en autogestion, apprenant sur le tard et cherchant à se transmettre ses savoir-faire. Le terme d'autogestion est important. Il renvoie à une lecture radicale de la reprise en main par chacun une de nos possibilités d'agir, invitant au care, à la solidarité, mais refusant de reproduire une gestion des corps verticale et surplombante, comme nous y a habitués les modes de gestion patriarcale. Cela pour la petite recontextualisation générale. Dans la manif de la semaine dernière, des agressions graves ont eu lieu. Moi-même, je ne suis certainement pas au courant de toutes. Je peux avant tout parler des tentatives de violence physique dont j'ai été témoin et victime au parking Victor Hugo par des fascistes. J'ai ensuite appris qu'une personne proche de ma famille d'origine, que l'on appellera ED, avait été passée à tabac, près de la place Saint-Michel, en marge de la manifestation. Je lui ai témoigné mon empathie et mon soutien pour sa rémission et condamné cette agression grave qui, pour le citer, aurait pu le tuer. Le collectif organisateur de la manif a fait de même publiquement et en privé, comme à l'ensemble des personnes ayant témoigné avoir été victimes d'agressions ce soir-là. Il s'avère que cette personne que je connais, parlant depuis une position d'homme cis blanc de classe bourgeoise, a décidé de nous tenir tous de responsables, au moins moralement, pour son agression. Non seulement le collectif organisateur, mais finalement l'ensemble du mouvement féministe en général. Je devrais dire des mouvements féministes, mais bien sûr son analyse ne va pas aussi loin. Mettant d'abord cette colère sur le compte du choc lié à son traumatisme, j'ai laissé dire. Mais je veux finalement revenir sur l'expression de sa haine, qui a continué tout au long de la semaine, s'exprimant à l'encontre de l'ensemble des féministes. J'y reviens d'une part, parce que cela m'a fait violence personnellement. D'autre part, parce que le discours qu'il sert est dangereux, et illustre une vision réactionnaire plus générale qu'on retrouve à l'échelle sociétale et qui va en se cachant de moins en moins à l'international comme en France. Et qui avance en se cachant de moins en moins à l'international comme en France, notamment à l'approche des élections présidentielles ici. Je souhaite donc reprendre ici la plupart des insultes et accusations dont il a témoigné pour en clarifier les confusions dangereuses, donnant directement du grain à moudre aux pensées fascistes, notamment masculinistes, et ce d'autant plus que sa position sociale lui permet d'avoir un auditoire conséquent, que ce soit par ses cercles personnels, les réseaux sociaux ou le lectorat de Sud-Ouest, journal local qu'il s'est empressé de saisir. Le terme revenant le plus fréquemment dans ses propos, à l'encontre de l'ensemble des féministes dont je fais partie et qui ont pris part à cette manifestation, est celui de « fasciste ». Je me permets de revenir sur la définition de ce terme. Le fascisme, en dehors de sa première définition historique renvoyant aux idéologies d'extrême droite au pouvoir en Europe dans les années 30, notamment en Italie, Allemagne, Espagne, France, ainsi que dans d'autres pays, notamment d'Amérique du Sud, renvoie à une doctrine ou système politique tendant à instaurer dans un État un régime totalitaire de même type. Est-il nécessaire de rappeler à quel point le féminisme est bien loin de vouloir imposer une grille totalisante? Il y a au sein du féminisme une pluralité de mouvements différents, certains fondamentalement opposés entre eux. Les branches les plus institutionnelles se focalisent surtout sur l'égalité au sein des institutions étatiques et de la société en général. D'autres courants, comme ceux auxquels je me rattache, rejettent l'État en tant que tel, revendiquant que celui-ci nous laisse, nous, minorités de genre comme le reste, libres de nos vies, nos corps, nos projets, nos attirances, nos sexualités, nos manières de faire famille et communauté. Or, depuis nos mouvements féministes insurrectionnels, queer et antiracistes, nous dénonçons nous-mêmes le fascisme actuel, répandu partout, base autant que produit constamment remodelé des institutions de pouvoir étatique et capitaliste. Ce fascisme, c'est notamment celui d'un État-nation qui a construit des classifications et organisé la société et sa domination sur la base d'oppressions systémiques s'exprimant par d'innombrables violences allant jusqu'à des crimes de masse dont ces États, avec un grand E majuscule, refusent toujours de reconnaître le caractère génocidaire. Je mets des ressources en lien en description de ce podcast. Ce que dénoncent et combattent les courants féministes auxquels je m'identifie, c'est ce système qui se veut totalisant et qui est déjà au pouvoir. Sous le vernis de république et de démocratie, il gère et contrôle l'ensemble de nos corps, nos états civils, nos genres, nos vies privées, amoureuses, familiales, nos programmes éducatifs, et de plus en plus resserre la vis sur nos moyens d'expression, faisant la guerre aux militanteux et aux universitaires, tentant de dissoudre les associations qui ne vont pas dans son sens. Pour les personnes qui ont la « chance » entre guillemets de ne pas conscientiser la force de pouvoir sur leur personne, de ne pas en subir ou en tout cas percevoir directement le contrôle et la violence sur leur corps, parler de fascisme semble souvent exagéré en comparaison des années 30. Cela justement parce que les pouvoirs en place ont bien réussi à faire progressivement accepter leur autorité par de nouvelles manières de gouverner, c'est ce que disait Foucault. Une première dynamique consistait à enfermer le terme « fascisme » dans une seule et même facette, présentée comme étant l'apanage de l'extrême droite. Une autre s'arrangeait pour que la répression violente sur les individus jugés les moins assimilables à son programme politique, que cette répression se poursuive, mais de manière la plus éloignée possible du regard et de la prise de conscience de celles qu'ils souhaitaient formater pour être citoyens haine. Usant de tout un tas de justifications et de stratagèmes d'invisibilisation, cette violence fasciste, physique directe, s'est donc canalisée dans les quartiers populaires, les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les centres de rétention, les départements d'outre-mer, aux frontières, et j'en passe. Sur le reste d'entre nous, les mécanismes de pouvoir se sont transformés, se sont rendus plus insidieux, cherchant à nous faire d'abord nous-mêmes intérioriser ces normes, c'est ce que disait Norbert Elias, pour que nous nous autodisciplinions nous-mêmes, ainsi que les autres. Sur ce corps général de citoyens haine, s'élargissant au fil du temps, les violences se sont faites moins directement, n'empêchant en rien l'expression des violences psychologiques, économiques, administratives et la délégation de violences directes à des figures patriarcales au sein de sphères privées du fameux modèle de la famille nucléaire. Des violences tour à tour discréditées, invisibilisées, moquées, fétichisées, niées par les pouvoirs, mais qui structurent pourtant nos vies. Voilà. C'est ce système fasciste que je dénonce pour ma part, aux côtés d'autres adelfes féministes. Et bien sûr que c'est toujours plus complexe et évolutif, et différent au cas par cas. C'est bien pour ça qu'on parle toujours de mécanismes généraux historiques, structurels et à une échelle systémique. J'en reviens à ED, et à l'amalgame et la simplification courte d'esprit, autant qu'extrêmement dangereuse que cette personne fait en tenant l'ensemble des féministes responsables de son agression. En effet, l'agression qu'il a subie ne légitime en aucun cas la manière dont il vomit sur nos combats, ni le déferlement de haine qui l'alimente. Elle ne fait en rien disparaître les violences patriarcales qui sont pour leur part systémiques et quotidiennes et légitiment nos luttes. J'en arrive au discours proprement et plus spécifiquement antiféministe que sert le discours de cette personne. Tout d'abord, son discours est à replacer dans la fiction patriarcale de la binarité des sexes et des genres, dont les catégories, le féminin et le masculin, seraient des entités fondamentalement différentes. Au genre masculin a été historiquement associé un pouvoir de violence. On le retrouve notamment dans les guerres ou encore les répressions policières, avec toutes les valeurs associées à cette idée de la masculinité. Virilité, rationalité, force, paternalisme, loyauté, patriotique, etc. Ainsi, lorsque des personnes considérées comme non masculines, ou en tout cas pas d'un type de masculinité hégémonique, c'est-à-dire blanche, occidentale, bourgeoise, valide, expriment de la violence, celle-ci est directement renvoyée à une aberration, un phénomène à la marge, relevant de l'anecdotique de l'accident. Pour discréditer toute légitimité à cette violence, elle est dépeinte comme l'exception confirmant la règle, sous-entendu celle d'une humanité incomplète de ces minorités en comparaison de la masculinité hégémonique construite pour représenter l'universel, le centre, comme dit Bell Hooks, et l'objectivité. En ressort les disqualifications bien connues dans l'histoire et l'actualité, telles que sorcière, monstre, hystérique, féminazie, folle, yenne en roue libre, surtout pour des personnes perçues au féminin. En effet, le pouvoir capitaliste et étatique, ce n'est pas seulement celui qui contraint, c'est aussi celui qui nomme, qui décide des règles du jeu. C'est lui qui s'arroge la légitimité du discours, du savoir autant que de la violence. ED a beaucoup recouru aux disqualificatifs de violente, d'idiote, de folle, et j'en passe. Or qu'il en ait conscience ou pas, il a alors recours à une manière de nommer et de discréditer des minorités qui est profondément inhérente au système de pouvoir patriarcal. Une manière de prendre des actes individuels pour en faire le résumé d'un groupe de personnes déjà minorisées, sous des stigmatisations difficiles à factuellement questionner, contester, recontextualiser. Et ce sont bel et bien les pouvoirs patriarcaux qui diffusent ces disqualificatifs, veillant plus généralement, au travers de leurs nombreuses institutions, à maintenir le contrôle du bon vocabulaire légitime. Que ce soit pour parler de genre, de couleur de peau, de phénotype, de conjugaison non inclusive, comme de ce qu'il qualifie de légal et d'illégal, de ce qu'il désigne comme devant être l'ennemi, ou encore ce qu'ils estiment relever de la violence légitime, celle dont ils entendent garder le monopole. Cette violence dépeinte comme légitime de l'État et de sa police est opposée à la violence dépeinte comme illégitime des minorités et des marges qui se rebellent, se défendent et contre-attaquent. Celle des classes populaires, des quartiers populaires aux gilets jaunes, des casseuses aux militantes féministes, queer, antiracistes, ou juste des personnes qui s'en prennent à leurs agresseuses. Cette violence-là sera toujours décrite comme illégitime par le pouvoir, et de ce fait, fortement réprimée, comme le montre Elsa Dorlin. Petit répertoire des différentes manières de discréditer les violences des minorités. La recette demande des appellations aux définitions confuses et malléables, pour qu'on puisse les ressortir à peu près n'importe quand. Il peut s'agir d'infantiliser, en traitant de gamin, gamine, de disqualifier sur le plan intellectuel, en parlant d'analphabète, de débile, de pathologiser ou encore de psychiatriser ces minorités, folles, hystériques, sociopathes, complotistes, ou encore la figure stéréotypée de l'angry black woman par exemple, en termes de misogynie noire. Une autre étape est également de rendre menaçantes ces minorités, et de les criminaliser, telle que par l'expression du 19e siècle, classe laborieuse, classe dangereuse. La figure des personnes racisées également, notamment noires et arabes, régulièrement stéréotypées comme voleurs et violeurs. La désignation des musulmans comme des terroristes djihadistes, des militantes notamment anarchistes comme elle aussi un autre type de terrorisme. Ces différents outils de disqualification peuvent également être cumulés ou mélangés. Les forces au pouvoir aiment par exemple bien jouer sur les amalgames historiques pour s'en prendre à plusieurs minorités en même temps en les plaçant comme ennemis d'une cohésion nationale, comme l'expression judéo-bolchévisme, puis islamo-gauchisme, et désormais, séparatiste. Ces expressions viennent la plupart du temps délégitimer tout mécanisme d'autodéfense des minorités.
Je te dis même pas ce que ces mecs cul serraient mon dit. Quand ils ont vu que je serrais mon jean et que je négocierais mon deal. Qui pouvait croire que j'esquiverais leur cérémonie? Que Paris Sud serait ma plante, que l'île de France serait mon île. Que sur le plus haut de ces arbres je ne ferais qu'un nid. Un oiseau migrateur aux pensées panafricanistes. Je suis pas à Paname fréquemment, fréquemment. Mais aucune ville m'a pas la fréquente. Mais les casseurs je les comprends, si tu veux savoir je les fréquente même.
Or pour rappel et en référence à Elsa Dorlin que j'interviewais justement dans mon dernier podcast, l'autodéfense se fait d'abord en réponse à une violence des agresseuses et plus généralement des personnes en situation dominante. Ce n'est pas d'ailleurs la plupart du temps une autodéfense de confrontation physique. Ces expressions sont multiples, partant avant tout des dispositions de corps, des divers mouvements dans l'espace qu'on s'aménage pour résister, survivre, respirer. Les manifs font partie de l'autodéfense. Les mécanismes auxquels conduisent cette recherche d'autodéfense peuvent conduire à des actes non nécessaires, voire qui se trouvent profondément violents eux-mêmes et donc condamnables, au sens où même opprimés par des systèmes, nous restons les trois quarts du temps responsables de nos actes, sauf conditions extrêmes particulières. Je ne suis personne pour statuer seule sur les circonstances de violence dont je n'ai pas été témoin et commises par des gens dont j'ignore tout. Je sais que D souhaitait me pousser à une prise de position et ce texte répond à cette sollicitation. Il souhaiterait vraisemblablement que je déclare que ces personnes n'ont rien à voir avec notre combat féministe. Mais je ne suis pas la gardienne du féminisme. Le féminisme n'est pas un label, une opinion ou un parti politique avec une seule et même modalité. S'en revendique qui s'en sent concerné, ce ne sont pas mes affaires. Et le féminisme ne saurait à lui seul fournir le seul contexte d'une agression. Je sais bien que là où m'attend ED, c'est sur le fait que ces personnes s'en soient revendiquées. Autant qu'elles aient souligné le fait d'appartenir à des minorités de genre. Mais là encore, il serait stupide de penser que toutes les minorités de genre ressentent, vivent, conscientisent et agissent de la même façon. Cela ne veut pas dire que je ne pense pas que ces personnes et moi-même ne vivions pas et ne conscientisions pas des violences sexistes similaires. Et je souligne les manques et les biais du droit français, qui ne prend pas en compte ou banalise les oppressions systémiques et la complexité des rapports de pouvoir quand il prétend rechercher les circonstances de tel ou tel acte, y compris dit d'agression. Je tenais à quand même dire cela, pour que mon texte ne soit pas utilisé pour discréditer ce que ces personnes pourraient par la suite désigner comme du sexisme. Ce n'est pas parce que je dis que cette agression ne résume pas le combat antisexiste que je ne pense pas que la situation générale n'ait absolument rien à voir avec le sexisme. Mais merci d'arrêter de toujours vouloir simplifier à outrance, selon une grille binaire, et d'attendre des minorités de devoir rendre des comptes des actes n'importe lesquels de leurs membres. Je n'ai rien à dire de plus sur cette agression. Par contre, oui, j'ai à dire sur le fait de condamner nos expressions d'autodéfense en général, et notamment l'organisation d'une manif. La recherche d'autodéfense vis-à-vis d'un système peut amener à des violences condamnables, moralement ou autres. Mais sa recherche en tant que telle, autrement dit nos luttes, ne peuvent se résumer à ces actes, et restent pour leur part légitimes tant que l'oppression persiste. Et ce n'est absolument pas que la fin justifie les moyens. L'autodéfense n'implique pas un calcul et ne poursuit pas une fin, comme son nom l'indique, c'est avant tout de la défense. Et encore, l'analyse systémique des oppressions et la recherche d'une défense générale ne sert pas de rempart contre la responsabilité. Ce n'est au contraire qu'une première marche pour qu'on pense collectivement ces violences, en partant du principe que nous sommes à l'intersection de l'ensemble de ces systèmes oppressifs, pouvant nous trouver opprimés et oppresseuses selon les contextes, et qu'il est donc urgent de penser ensemble des moyens d'anticiper, contrecarrer ces violences, d'organiser les désescalades ou en tout cas leur expression dans un cadre adéquat, de penser des mécanismes de médiation et de justice transformatrice. Car c'est pour la théorie et le décor de ce que les mouvements féministes auxquels je m'identifie essaient de creuser au quotidien. Bien sûr que dans la pratique, nous ne sommes pas tous sur les mêmes grilles de lecture et les rappels à l'ordre des pouvoirs étatiques et de ces fictions de bonne justice n'aident pas. Dans la pratique donc, les exactions, vendettas et autres continuent de se produire. Si on peut comprendre les mécanismes généraux inégaux et oppressifs qui y conduisent, et dont personne ne porte seule la responsabilité, elles n'en sont pas moins condamnables, et restent de la responsabilité directe des personnes qui commettent ces actes, toujours à des échelles et selon des modalités différentes en fonction des contextes et des personnes. C'est un raccourci dangereux de toujours voir dans notre analyse systémique une volonté de faire disparaître toute responsabilité individuelle. Nous souhaitons nous-mêmes que nos agresseurs se portent individuellement responsables de ce qu'elles nous ont fait. Mais dans leur cas, nous voyons plus loin. Parce que le fait que leurs actes traduisent une oppression systémique sur nous, ce qui n'est pas le cas de l'agression sur ED, signifie que les prises de responsabilité individuelles au cas par cas n'empêcheront pas l'histoire de se répéter encore et encore. Bien sûr que non, la violence n'est absolument pas l'apanage des mecs cis. Elle est immanente, on baigne dedans. Elle traverse, s'exprime sur et à travers tous les corps humains. Et bien entendu qu'elle n'est pas délimitée par la frontière du genre, cette frontière étant elle-même un construit social et culturel. La violence des minorités de genre ne peut pas être mise de manière systémique sur le même plan que la violence patriarcale. Or, c'est ce que cherchent à nous faire croire les tenants des théories antiféministes. À mesure que l'autodéfense féministe gagne de l'ampleur et que la stratégie consistant à invisibiliser ou du moins minoriser les capacités de violence des minorités de genre perd donc de la force, les discours réactionnaires changent de rhétorique. On passe du discrédit à la diabolisation. Pour cela, il s'agit de dire que non seulement l'égalité des genres a déjà été atteinte, comme en témoignerait une lecture basée sur les évolutions légales et juridiques, et absolument pas sur la prise en compte de la réalité des conditions d'existence, mais qu'en plus, le genre féminin serait désormais devenu lui-même un système oppressif, faisant la guerre aux hommes, entendu hommes cis, via MeToo et le reste des mouvements, instaurant une matriarchie, s'arrogeant le monopole des enfants et j'en passe. Ainsi, lorsque ED déclare que les féministes ne valent pas mieux que ceux qui elles prétendent combattre, qui elles sont machistes et encore fascistes et excluantes, c'est exactement dans ce type de discours qu'ils versent. Un discours que prônent ostensiblement des personnalités comme Zemmour, Emmanuel Todd, Frédéric Beigbeder, mais qui infuse doucement une grande partie des membres de la communauté blanche, bourgeoise, de la droite à la gauche social-démocrate, voire plus, s'invitant sur les plateaux télé, dans les tribunes des journaux mainstream, à l'antenne de France Inter, etc. Crispation réactionnaire, backlash, comme disait Suzanne Faludi. Mon analyse n'est en rien une opinion pouvant être renvoyée dos à dos avec ces discours sans fondement. Mon analyse s'inscrit dans une expérience vécue de l'oppression que je dénonce, ainsi que dans des années d'études, de recherches et d'échanges appuyés sur les analyses d'autres penseuses, tant occidentales que décoloniales, des recherches auxquelles le gouvernement français fait la guerre, tentant constamment de les discréditer, en les renvoyant du côté de l'idéologie, du séparatisme. Cette manière de discréditer le combat féministe en le ramenant à une position politique extrême, voire à une idéologie, se retrouve dans l'accusation de fascisme ou dans le fait que D nous accusait sans arrêt de mal défendre notre cause. Or, le fait de parler de cause renvoie à une sorte de pensée politique théorique, alors que la théorie ne vient qu'en second plan. Nous luttons d'abord et avant tout depuis nos vécus et pour le respect de nos vies, nos corps, nos identités, nos rêves, nos dignités. Il est facile ensuite de couper ou noyer nos revendications et les dénonciations, pourtant multiples et complexes et loin d'être uniformes à l'ensemble des mouvements féministes, par des interprétations simplificatrices et en ce sens populistes, de type « Vous dites combattre les fascistes ?» Miroir, miroir, c'est vous les fascistes. Et hop, ressortir le panel des mots discréditants. Irresponsables, débiles, folles qui vont avec. L'accusation d'idéologie contre un collectif queer donne également du grain à moudre à l'ensemble des rhétoriques également fascistes accusant les personnes LGBTQIA+, de lobbying, tandis que les groupes répandant ces discours queerphobes financent massivement les institutions nationales et européennes pour bloquer l'avancée de nos droits. Je me doute que ce texte sera sûrement peu lu et entendu. Je n'espère même pas convaincre le principal intéressé que je suppose être trop enfermé dans sa propre certitude de légitimité et sa colère. Je prends la peine de l'écrire et de le dire pour qu'il reste une trace, de plus, de nos dénonciations et dans l'espoir qu'il puisse donner ou rappeler des outils aidant à ne pas sombrer dans cette pensée pour le coup réellement fasciste qu'est l'antiféminisme, à une époque où ses porteurs sont de plus en plus nombreux, visibles, banalisés, et nous exposent donc à une nouvelle exacerbation de conservatisme et de violence oppressive. Pour conclure, résumer et finir de répondre aux termes et expressions employés par ED. Non, les agressions au niveau du parking Victor Hugo n'étaient pas une guerre des boutons, comme il dit, mais bien de véritables agressions fascistes. Qui est-il pour s'octroyer une fois de plus le pouvoir de discréditer nos combats et notre parole? Encore et encore, non, les violences sexistes et patriarcales ne sont pas anecdotiques, mais oui, elles sont toujours systémiques et omniprésentes. Il a subi un passage à tabac. Il n'a pas subi une violence sexiste. D'ailleurs, il utilise aussi le terme « lynchage », et j'invite tout le monde à revoir d'où vient historiquement ce terme, qui était avant tout utilisé sur les esclaves, puis les communautés afro-descendantes des États-Unis, par des hommes cis blancs, s'octroyant tout pouvoir de « justice expéditive », autrement dit de mise à mort raciste sur ses corps. Pour en savoir plus là-dessus, je vous renvoie vers Bell Hooks ou encore Elsa Dorlin. N'oublions pas, n'invisibilisons pas et ne relativisons pas le poids et l'histoire des mots. Surtout tant que les crimes génocidaires du passé continuent de se perpétuer. Non, nous n'appartenons pas à des mouvements oppressifs. Tout simplement déjà parce que nous ne sommes pas des groupes ni uniformes, ni en position et en recherche d'un pouvoir sur d'autres, pour faire une référence à Starhawk. Nous jaillissons du sol. Nous ne voulons pas que nos manières de voir les choses priment et gouvernent sur tout le monde. Nous souhaitons juste qu'on arrête de nous imposer pouvoir, contrôle et normes sur nos vies, nos corps, nos familles choisies. Décidément, c'est difficile pour les personnes en position dominante de ne pas faire des violences auxquelles elles se retrouvent confrontées, un exemple se disant universel de violence qui serait éminemment plus vaste, justifiant de partir en croisade contre toute une infinité d'autres personnes. Difficile sans doute, justement parce qu'elles sont habituées à se penser comme l'universel. Agresser un homme cis, ce serait forcément marquer la répression de tous les hommes cis. Et quand, en dehors de ces violences, on maintient qu'elles restent néanmoins bel et bien en position de dominant au quotidien, cela les fait bondir. Mécanisme classique de la fragilité blanche mis en avant par Robin DiAngelo, et qu'on pourrait décliner dans des modalités différentes, selon les systèmes d'oppression. C'est quand même incroyable, cette facilité de beaucoup à mettre tout un ensemble de personnes dans un même sac quand ça les arrange, tout en étant les premiers R. à crier « not all men » quand on parle de violence patriarcale systémique. C'est quand même incroyable, cette rapidité à attribuer la responsabilité des violences qu'ils peuvent subir à des discours et slogans clamés depuis les marges par les minorités, et ce alors même qu'au quotidien, ce sont les premiers à minimiser le poids des mots, des blagues, des discours, des représentations culturelles qui alimentent partout et constamment la culture du viol, les violences patriarcales, mais aussi colonialistes, racistes, et toutes les autres violences qui sont imbriquées. Se renfrognant derrière le « on ne peut plus rien dire ». Et c'est toujours frappant de voir à quel point une personne dans une telle position dominante n'hésite pas une seule seconde à se sentir légitime de déverser des discours haineux partout, là où des minorités qui vivent des violences au quotidien et passent leur temps à combattre leur propre sentiment d'illégitimité, à même essayer de comprendre leur agresseureuse, à se remettre en question constamment sur comment être le A plus juste, le A plus éthique, le A meilleur allié possible des autres, qui cherchent constamment comment pardonner, comment prendre en compte et respecter l'ensemble des expressions, des besoins, des mal-être. C'est ce type de personnes qui écrivent pour condamner publiquement et en privé des agressions dont elles ne sont pourtant pas responsables et témoigner ainsi leur empathie. Des personnes qui, peu nombreuses et avec des violences quotidiennes à affronter, s'accrochent pour faire bouger les choses, pour insuffler de l'espoir et de la force, et essaient de créer des ponts, même envers celles qui leur déversent une armada de haine, et les exposent à une répression supplémentaire du pouvoir qui n'attend que ça. Le moindre prétexte pour s'en prendre à des individus et collectifs qui le contestent. Les fameuses séparatistes de son pouvoir fasciste. Voilà pour les clarifications. J'aime que tout soit bien rangé. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ. J'aime bien que les femmes n'avortent pas. J'aime bien la télévision. J'aime bien l'idée du partage. liste non exhaustive des autoristes à partir desquelles se sont affinées mes analyses. Donc il y a Elsa Dorlin, Bell Hooks, Angela Davis. Pour le terme de misogyne noire, il se doit à Moya Bailey. Il y a également Hannibal Quirano, Maria Lagunes, Eduardo Galeano, Star Hawk, Audrey Lord, Dorothy Allison, Adrienne Rich, Rocaia Diallo, Jules Falquet, Paul P. Preciado, Robin DiAngelo, Suzanne Faludi, Michel Foucault, Norbert Elias, Edouard Saïd, Eric Fassin. Pour les podcasts, je conseille toujours Kif Taras, À l'intersection, Semblant de rien, Un podcast à soi, Camille, Les couilles sur la table, La poudre. En termes de médias, on peut aller regarder du côté de Nantes Révoltée, qui, pour le coup, a subi pas mal de pression du gouvernement dernièrement, Info Kiosque, Cerveau non disponible. Et pour mes podcasts qui traitent déjà de sujets connexes, donc il y a la série Contre la queerphobie, en 3 épisodes, dans le cycle sur les représentations de la maternité et sur le thème de la fabrication des genres, vous pouvez réécouter Mater Naturelle, Terre-Mère ou Reproduction forcée, ou bien encore L'Odyssée des Mères. Il y a aussi la série que j'avais fait en novembre 2020 avec mon amie Dilili, Coronavirus, Garde à vous et Sous les pavés et la rage, donc pareil en 3 épisodes. Et enfin, plus dernièrement, Tenbakata, Hercules Avapa, qui revient aussi sur qui s'octroie le discours de parler de qui en termes d'universel, etc. Et le dernier épisode, il y a 2 semaines, 8 mars, avec Elsa Dorlin, qui parle aussi pas mal d'autodéfense, des différents mouvements féministes et des enjeux actuels, et du backlash réactionnaire. D'autres épisodes dans Au bord des corps.
Les soins de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Au bord des corps.